Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu. Et Déborah et Mathieu, on reprend la Réu là où on l'avait arrêté la semaine dernière avec Man of Steel et Batman v Superman, l'aube de la justice. On essayait donc de retracer toute l'histoire de l'univers étendu DC, le fameux DCEU, qui a commencé en 2013 avec le retour de Superman et qui s'est terminé en 2023 avec le crash, une série de crash plutôt, dont Aquaman 2 à la fin de l'année dernière. Je pensais qu'on pouvait y arriver en une réunion, mais clairement j'avais perdu la tête, donc on a une heure pour boucler ça, et vu qu'il reste à peu près 13 films, bah je me dis que c'est toujours pas gagné, hein, mais bon, on y croit. On reprend donc avec Suicide Squad. C'est certainement l'un des films les plus détestés, hein, notamment dans l'équipe d'écran large, un des plus détestés de cet univers étendu, mais c'est surtout l'un des premiers gros bordels du DCEU, puisque le film a été charcuté, réécrit, retourné, modifié après coup, et depuis des années on nous parle de la vraie version que le studio a foutu en l'air, c'est le Snyder Cut avant le Snyder Cut en gros. Mais on rembobine un peu, c'est en septembre 2014 que David Ayer est engagé, et on peut quand même noter que pour le coup David Ayer n'a jamais fait de blockbuster, pas fait de film de super-héros, donc c'était un peu le Joker un peu moins évident que Zack Snyder, non ?
Fury, c'était avant ou c'était après ?
Ouais, il sortait de Fury.
Ah ouais ?
Parce que justement, il disait qu'il avait Hollywood à ses pieds après avoir fait Fury et qu'il a enchaîné
c'est
avec
Suicide Squad. C'est pas un blockbuster Fury, hein, ça a pas coûté 250
millions. Non, mais il dirigeait quand même des gros acteurs, ouais, avec des gros décors, des effets spéciaux numériques.
Ok, d'accord, j'ai rien dit. Donc en septembre 2014, il est engagé. En octobre 2014, c'est là qu'il y a donc cette annonce de 10 films pour seulement les prochaines années. Et en octobre 2014, on voit déjà quels sont les arguments de Suicide Squad, puisque dans ce film, en théorie, il n'y a pas de super-héros très connus. Donc on va jouer sur quoi ? On va jouer sur les acteurs et les actrices. C'est pour ça que très vite, on entend parler de Will Smith, de Margot Robbie, de Tom Hardy et même de Ryan Gosling, qui aurait pu faire le Joker, sauf qu'en fait, il a dit « j'ai piscine », donc c'est Jared Leto qui est arrivé. Tom Hardy a préféré rester occupé sur The Revenant. Jake Gyllenhaal a dû lire le scénario et dire non merci, même s'il avait fait avec David Ayer End of Watch. Et tournage début 2015.
C'est incroyable.
De quoi
ce que tu viens de raconter. Genre le mec, il a demandé à tous les meilleurs acteurs d'Hollywood et s'est retrouvé avec les pires. C'est enfer,
bon,
quoi.
Bah, les pires, attends, sur le papier, des bons acteurs.
D'accord, mais bon. Franchement, Ryan Gosling, Jared Leto, putain, c'est pas l'ascenseur, là. C'est la tour de la terreur à Disneyland. Hein.
Mais ouais, dans ce projet, il était censé être dans la continuité de « on veut faire des choses très dark, très sombres, tout ça ». Et il y avait aussi quand même si, comme tu dis, il n'y a pas de super-héros qu'elle se rattachait, il y avait quand même Harley Quinn,
oui,
qui était un personnage super populaire et qui était la première fois qu'on voyait Harley Quinn en chair et en os au cinéma, parce qu'on l'avait déjà vu à la télévision. Voilà, c'était Mia Sara qui l'a joué dans une version au rabais dans Les Anges de la Nuit.
Ah, mais t'as fait un article sur ce truc.
Oui, oui, j'ai regardé toute cette série, c'est pour ça, je m'en rappelle, il fallait que je le casse quelque part dans cette réunion.
Très bien.
Du coup, voilà, il y avait quand même l'ancrage Harley Quinn et surtout cette bande de super méchants, super vilain et tout ça, ce que t'avais pas trop l'habitude de voir jusqu'ici dans une grande production hollywoodienne.
Qui est un peu la réponse aux Avengers, genre si on faisait les Avengers mais avec des gens pas sérieux, des gens qui sont un peu des bad guys et des bad girls et qui font un peu n'importe quoi.
Et toujours voilà, dans l'esprit, que ce soit conscient ou non, de se placer en contre-pied de Marvel, donc avec des choses très sombres
dark.
Et des vrais sujets.
C'est edgy.
Et bon bah le film est sorti et entre-temps il y a eu waouh tellement de bordel de post-production.
Ouais. Alors, j'avoue que je sais même pas par quel bout le prendre, peut-être par les trailers, j'ai l'impression que c'est le moment où ça a été très drôle de les comparer, non?
Bah, alors, les en fait, gens le premier... se sont rendu compte du truc en temps réel, c'est ça qui est incroyable. Oui.
Bah le tout premier, déjà le tout premier trailer qui a été diffusé, il était pas censé être diffusé. C'est en fait un truc qui avait été monté spécialement pour le Comic-Con de San Diego, j'imagine, bon pour un des Comic-Con, sauf qu'en fait les images ont fuité sur internet mais elles ont fuité en très mauvaise qualité. Mmh. Du coup, la Warner, au début, disait que non, c'était des images exclusives pour les fans du Comic-Con, et à la fin, ils ont fait un gros communiqué pour dire que, ouais, bah franchement, ça les faisait un peu chier de voir les images du film circuler en piètre qualité comme ça. Du coup, ils ont monté un trailer de 3 minutes, et dedans, il n'y a pas de néon. C'est vraiment assez sombre, c'est Amanda Waller qui parle en fait la scène où elle est au restaurant pour dire que c'est les pires ordures et tout. On nous vend vraiment ça comme quelque chose d'assez torturé, de presque amoral dans la forme et tout ça. Et bah quand le logo apparaît, c'est ça que je trouve très très drôle, c'est que c'est un logo un peu, tu sais, plaque de soldat métallisé, donc quelque chose de très froid. Il n'est pas du tout question d'avoir un filtre très pop, néon, fluo et tout ça. Et dès la deuxième bande-annonce...
Donc qui est en janvier 2016, donc 6-7 mois après.
Et ben là, le ton a complètement changé. On est clairement sur un peu les bandes annonces très formatées des blockbusters, donc avec une musique pop, beaucoup de blagues. Là, on met vraiment l'accent sur les gags. Il y a pas encore énormément de néons à l'écran, mais on voit déjà les logos là, néons et tout ça.
Et on voit aussi le cul de Margot Robbie.
On voit le
sera
cul
un des grands
de
arguments
Margot
du film.
Robbie aussi. Et en fait, parce que entre ces deux bandes annonces, il s'est passé un truc. C'est le monteur John Gilroy qui travaillait avec Zack Snyder qui a claqué la porte début de 2016, et il y a eu l'arrivée de Lee Smith qui lui était dans l'optique de changer légèrement de direction mais sans trop toucher au ton du film.
À la demande du studio qui voulait que le truc soit un petit peu différent.
Voilà, justement, après le studio avec les retours de BVS et déjà même avant ça du Man of Steel où il y avait eu cette espèce de polémique sur Superman qui a tué Zork et Superman ne tue pas. Alors que bon, tout le concept du film était de dire que c'était un déchirement pour lui d'en être arrivé là, mais enfin bon bref. Il y a eu des cadres de Warner qui ont voulu en fait faire leur propre montage du film dans l'idée d'affronter les deux montages en projection test, donc la version sombre et la version plus légère et divertissante, pour qu'au final ils essaient de se mettre d'accord sur un consensus, donc un montage entre les deux, donc un troisième montage qui serait un peu dark mais un peu léger quand même, et c'est ce qu'on a eu au final.
Mais cette histoire, c'est incroyable parce que en refouillant pour un peu savoir dans cette réhue par où prendre ce bestiau, c'est hallucinant parce qu'en fait, il y a eu tellement d'étapes, tellement de gens qui sont revenus sur leurs paroles, tellement de versions. David Ayer dit qu'en fait, il y a finalement eu 4 versions. Il y a eu la sienne au tout début qui n'a jamais été finie et que Warner a regardé en disant ça ne va pas parce que Deadpool et parce que tout ça est arrivé entre temps. Donc c'était la preuve que les gens voulaient pas des trucs trop sombres. Ils ont fait leur version. David Ayer a retouché cette version. On arrive à la quatrième version dont tu parles qui, quand elle est sortie, ne correspondait à personne. Et c'est génial parce qu'à l'époque, ils l'ont défendu évidemment officiellement en disant c'est notre film, on en est très fiers. Et un an ou deux après, David Ayer a dit ce film n'est pas du tout mon film. Et donc depuis, ça vient à peine de se terminer début 2024, parce que entre temps, David Ayer a toujours espéré qu'un jour sa version allait voir le jour, le fameux Ayer Cut, et en fait on le verra jamais. Et si on essaie de retracer un peu les trucs qui se sont passés, il y a un truc que je trouve très drôle, c'est que le deuxième trailer dont tu parles, donc celui qui a été monté sur Queen Bohemian Rhapsody, là qui est très connu, et qui est en plus assez efficace, honnêtement. Si tu n'as pas vu le film, moi je trouve que le film est bien, la bande-annonce est bien montée.
Mais
c'est
moins efficace que la première du Comic-Con, pour les avoir revus à la suite. Franchement, celle du Comic-Con, j'ai envie de voir ce film. Hein.
Ah
avec
ouais
la musique est hyper grave et tu sens que en fait c'est une approche très différente qu'elle qu'aura Gunn par la suite. C'est-à-dire que vraiment, il y a un côté, on va tous crever et on le sait. Et ouais, c'est vraiment désespéré. Il dit pas, va pas y avoir de blague, mais la bande-annonce essaye vraiment d'exprimer une sorte de désespoir qui si elle était dans le montage original, en aurait fait sans aucun doute un meilleur film.
Mmh. Ouais, je suis d'accord avec Amanda Waller, sa voix off, qui est un peu un discours qui sonne comme un aveu d'échec, genre bon bah voilà, on n'a pas d'autre choix que de se retrancher vers des super vilains. Enfin, il y a vraiment quelque chose de grave, de poisseux, désespéré. Et dès le deuxième, même si je trouve aussi qu'il marche plutôt bien, bah là avec le recul, tu vois les inserts de logo avec néon et tout, d'un coup tu te dis mais c'est quoi ça, c'est quoi cette charte esthétique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais regarder, surtout que bon bah donc quand même dans le second trailer ils ont pas pu s'empêcher de mettre quelques petites vannes où du coup tu sens déjà un peu plus que t'es dans l'entre-deux.
J'ai l'impression
comme ça
qu'ils ont sondé le film en se disant toutes les explosions, toutes les fusillades, tous les moments où on voit le cul de Margot Robbie, tous les moments qui sont un peu drôles, tous les trucs un peu explosifs, tu les mets.
Ouais, mais à la rigueur, du coup, c'est Harley Quinn, ça me dérange pas, parce que c'est le personnage, elle est très fantasque, elle est comme ça, elle te balance des blagues de mauvais goût dans les pires moments, donc ça, à la rigueur, ça va avec le personnage. Moi, c'est plus les Killer Croc, les katanas et tout ça. Tu dis, mais pourquoi ils ont l'air de passer un bon moment là,
ils sont... tous les money shots sur un tube de Queen en se disant comme ça, les gens vont venir. Ouais, mais à l'époque, ça a marché. Comme je me souviens que ça a surexcité les gens, donc oui, c'était oui, bien pensé, quoi. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait appel à un studio qui s'appelle Trailer Park pour monter la bande-annonce, et quand ils ont refait le film remonté, ce studio a été rappelé pour les aider à monter le film qu'on a de toute évidence vu au cinéma. Donc comme quoi on peut savoir à peu près monter une bande-annonce, mais pas savoir monter un film, quoi.
Si on s'intéresse à la science du montage, on va dire, regarder les deux bandes-annonces à la suite est assez fascinant, parce qu'il y a parfois même les mêmes plans, mais pas montés du tout de la même manière, et ce que ça traduit est radicalement différent, quoi. Quand, ne serait-ce que l'apparition de Harley Quinn, dans le premier, il la montre très lentement et elle est dans sa cage, suspendue, là, c'est assez joli. Ouais.
Et poupée désarticulée, un pantin, c'est
et dans le deuxième, les gros plans, et elle fait une blague de merde quand Will Smith débarque, je crois, un truc
et
comme
c'est
ça.
C'est là qu'elle dit les voix dans ma tête, elles m'ont dit que machin.
Mon Dieu.
Non, je rigole, j'en ai qu'une des voix. Et c'est, je rigole, elles m'ont pas dit
elles
ça.
Elles m'ont pas dit ça, c'est ça. Non, c'est terrible. Et ouais, non, et oui, voilà. Et puis dans la deuxième, bon, bah, c'est Bohemian Rhapsody, et à la drop, c'est Jay Courtney qui sait ouvrir sa canette de 8-6.
Ah
quoi.
Oui, qu'est-ce que c'est, putain. Mais ce qui est drôle, c'est que la première bande-annonce, donc comme tu dis, Déborah, pendant au Comic Con, c'était en juillet 2015, donc le tournage était en train de se terminer ou était à peine terminé, donc c'était vraiment le tout début de la post-prod. Alors que celui d'après, en janvier 2016, on est en plein dans la post-prod, il y avait eu l'effet Batman vs Superman qui s'était pas vraiment vautré, mais pas vraiment de réussite au box-office. Deadpool était sorti, donc vraiment, ils ont tous dit dans l'équipe, David d'ailleurs l'a répété 15 fois depuis, c'est à cause de l'accueil négatif de Batman vs Superman et du succès absolument ahurissant de Deadpool que Warner Bros. S'est dit, putain de bordel de merde, qu'est-ce qu'on peut faire, Suicide Squad, il faut le remodeler, il faut qu'on en fasse une comédie, un truc sympa que tout le monde peut aller voir.
Mais ça arrivait tellement à des aberrations, comme par exemple, un des soucis de la Warner, c'était la relation entre Harley Quinn et le Joker, et ils trouvaient que le Joker était quand même trop abusif avec Harley, que du coup il fallait un petit peu lisser cette relation, faire en sorte qu'il soit un petit peu plus gentil avec elle pour que l'histoire d'amour soit plus attrayante auprès du public adolescent. Là tu dis mais c'est une connerie sans nom. Enfin, le Joker est
pas
censé être gentil.
Joker, en fait, hein.
Il est pas censé être gentil. Enfin, c'est le Joker. Enfin, c'est la relation entre le Joker et Harley Quinn, c'est la métaphore même des violences conjugales, de l'abus, de la toxicité, de tout ça. Genre, et c'est pour ça que le fait qu'il là, il a sauvé à la fin du film, mais c'est. Je vais m'énerver si j'en parle trop.
Et David d'ailleurs et ses monteurs ont pas mal raconté ce que ça aurait dû être le film à l'origine et qu'on ne verra a priori jamais. Le premier montage, comme David d'ailleurs le voulait avec son premier monteur, c'était un truc linéaire. Il n'y avait que le score de Steven Price, donc il n'y avait pas des tubes de merde
de
tous les côtés.
Parce que ça... Qu'est-ce que c'est?
Ouais, c'est un peu too much. Il y avait 13 minutes supplémentaires et surtout, le film commençait... pas avec un espèce de best-of d'origin story de tous les personnages, parce que c'est ça qui est aberrant quand tu revois Suicide Squad aujourd'hui, on dirait qu'il y a 3 ou 4 débuts dans le film qui te mettent en avant en hiérarchie au début de Deadshot et Harley Quinn pour que tu comprennes que les stars du film et les stars côté coulisses sont là, et en fait le truc bégaye plein de fois, et lui à l'origine il raconte que le studio a demandé des changements pour que tout soit au début, mais sinon en fait c'est structuré autrement et les personnages étaient présentés au fur et à mesure de l'intrigue et c'était vraiment complètement différent. On leur a demandé jusqu'au dernier moment, ils continuent à retravailler ça, ce qui donne l'impression de ce film qui a été monté et refait avec un début qui est fait en 2 ou 3 parties, quoi. Dans mon souvenir, c'est vraiment insupportable.
Et ailleurs, bon, évidemment, depuis qu'il prend la parole pour dire que la Warner a totalement bousillé son film, il y a une phrase qu'il a sortie et que je trouve assez drôle, c'est « Je dis souvent aux gens qu'Hollywood, c'est comme regarder quelqu'un qu'on aime se faire baiser par quelqu'un qu'on déteste. » On sent quand même le poids derrière de l'échec et à quel point il est juste amer, qu'on ait bousillé la vision de son film. C'est un film de studio qui répond à strictement aucune vision artistique.
Mais en plus, il est resté bon joueur, je trouve, David, d'ailleurs, parce que dès le début, c'était pas son film. En 2016, dans la presse, donc Warner et lui disaient « c'est un film dont on est très content et tout ». Bon, le classique, de toute façon, on sait qu'à Hollywood, rares sont les producteurs, les réalisateurs et réalisatrices à avoir le final cut. Donc, c'est pas une exception, ce qui arrive à David, d'ailleurs, c'est juste la normalité à l'excès. En 2020, sur Twitter, David Ayer disait donc que Batman v Superman avait été détruit par la critique, le succès de Deadpool était arrivé, et donc tout le monde a paniqué. Et Geoff Jones, qui était une des têtes pensantes de la Warner, a écrit des pages de reshoot qui devaient être ensuite faites. Donc en fait, il s'est retrouvé vraiment comme un larbin à la solde du studio, encore une fois rien d'exceptionnel. Et en juillet 2021, sur Twitter, il disait littéralement le montage sorti, le montage du film, ce n'est pas mon film. Je n'ai pas raconté mon expérience, je la raconterai jamais, donc j'en parlerai jamais. Il citait ses années en étant dans la marine pour dire que des trucs qui restent dans qui restent secrets quand t'es un soldat, donc il ne dira jamais rien. Et
film de guerre, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais il disait toujours, je soutiens la Warner, je soutiens leur film. Il restait bon joueur, quoi. Je pense que peut-être une partie de lui se disait, je vais pas me mettre à dos Warner et si mon film, le vrai film, doit un jour arriver au public, il faut pas que je sois un bâtard et que je joue contre eux. Donc pendant des années, ça a couru. À partir de 2020, avec le Snyder Cut, il a commencé à parler de son higher cut en se disant, putain, ça arrive à Zack Snyder, pourquoi pas avec moi? Et pendant des années, une partie du public qui en a quelque chose à foutre s'est un peu accroché à ça, ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que même si tu détestes ce film, c'est intéressant de te dire, le réalisateur est blâmé pour un truc qui n'est pas de son fait. Donc en fait, peut-être que son film aurait été moins pourri, et c'est chiant de te dire qu'il est associé à ça, parce que le film, il est signé David Ayer. En 2021, Warner a dit, on s'en fout, on le verra jamais. En 2023, suite au changement de direction, David Ayer a dit que James Gunn, le nouveau co-président de DC, avait peut-être dit que ça l'intéresserait éventuellement. Et là, on est début 2024 et il se trouve qu'avec cette réunion coïncide vraiment un signe de Jésus, de Man of Steel, de Superman. J'en ai fini avec DC, le Ayer Cut c'est fini, je veux plus en entendre parler, j'en ai fini avec Warner et DC.
Alors qu'en novembre 2023, il disait encore qu'il y avait un espoir que le Ayer Cut sorte et que ça allait changer le monde ou je ne sais quoi. Donc...
Ah bah il se croyait à fond, quoi. Je veux bien croire que c'est compliqué pour lui. Et vraiment, quand il en parle... Parfois, c'est assez touchant. Il dit, c'est compliqué quand je rentrais chez moi et mes gosses, je devais leur expliquer, en gros, que papa, il devait affronter le studio et que les trucs qu'on disait sur lui et son film, c'était pas du tout ce qu'il avait fait. Et je pense que pendant des années, ça a dû être très compliqué qu'on lui dise, ton film, c'est une grosse merde et t'es nul, alors que c'était pas son film, de toute évidence.
Après, ça aurait pu être pire. Ils auraient pu l'annuler pour des réductions d'impôts.
Et aussi dans les autres trucs que j'ai lus qui étaient assez intéressants, c'est que avant le tournage, il y avait des trucs qui étaient prévus dans le scénario qui ont été coupés et réécrits, donc avant qu'ils soient tournés. Steppenwolf, les Mother Box, les Parademons et l'Enchantresse, donc la bouffonne là, qui fait du dubstep à la fin là, elle devait être liée aux Mother Box et ouvrir une dimension, une porte vers la dimension, comment ça s'appelle, Apocalypse.
C'était du beau beatbox. Apocalypse.
Donc des trucs qu'on verra dans le Snyder Cut et qui étaient dans le plan de Justice League. Donc en théorie, le scénario écrit par David Ayer s'incrustait vraiment dans l'univers étendu avec le Snyder Cut, enfin avec Zack Snyder. Et c'est le studio Warner qui voulait un peu calmer les choses, ou peut-être Zack Snyder qui voulait garder ça pour Justice League qui est sorti après. Bon voilà, en tout cas il y a eu beaucoup de changements. Tu citais le Joker, Diablo ne mourait pas à la fin apparemment. Katana avait un grand rôle, c'est-à-dire qu'elle avait un truc à faire, elle était possédée, se retournait contre les autres, ouais.
C'est incroyable. Dans la bande-annonce, la deuxième, je crois d'ailleurs, tu sais, à la fin, obligatoire plan où il marche au ralenti, et elle est en tête de file.
Oui,
on dirait
exact,
que c'est la chef.
Je me suis fait la réflexion.
Alors que dans le film, c'est incroyable, elle a deux scènes. Elle débarque d'ailleurs, complètement différée avec les autres. Je crois que t'as Rick Flag qui fait en fait on sait pas trop c'est qui, elle vient d'arriver et tout. Alors tu te dis, oh putain, elle va avoir un arc hyper intéressant, grosse origin story, deux scènes plus tard elle est plus là. Vraiment, mais quoi.
Il y avait vraiment ce truc où Katana, on te dit qu'elle a une histoire trop tragique, où t'as l'âme de l'homme qu'elle aimait qui est enfermée dans son sabre et s'est tournée en blague. Tu dis, mais vraiment, mais la pauvre, ce pauvre personnage, à l'arrière, fallait juste pas le mettre dans le film, en fait, comme Killer Croc et plein d'autres, en fait, qui polluent le film parce qu'ils ont strictement rien à faire. Mais Killer Croc aussi, normalement, était censé avoir un arc un peu plus développé, ou en tout cas, on devait y avoir plus de scènes où on comprenait vraiment à quel point ça avait été dur pour lui de vivre comme un paria et tout ça. Et au final, non, ils ont juste fait des blagues sur le fait qu'il fasse peur.
Tu vois, si je compare à un autre film qui a essayé de présenter plein de héros d'un coup dans un film de groupe, je pense aux Éternels de Marvel, que moi j'aime bien, et qui, a bien réussi à caractériser plein de personnages en même temps, contrairement à Suicide Squad qui vraiment n'a à aucun moment caractérisé ces gens. Celui qui est le plus caractérisé, c'est Deadshot avec Will Smith, avec un truc interminable de sa petite fille et tout, mais que je trouve imbuvable.
Ah ouais, c'est horrible.
C'est super chiant.
Ça, et pour le coup, il y a des chances que ce soit dans la version originale.
Et en tout cas, c'était pas au début comme ça, visiblement. Et peut-être qu'ils ont beaucoup rajouté.
Il y a beaucoup de plans de ce moment-là dans la première bande-annonce.
Bah, peut-être c'est dans les reshoots. Hein. Peut-être que c'est Geoff Jones qui a dit la star, c'est Will Smith. Il faut recalibrer le film. Il faut qu'on le vende sur le nom de quelqu'un. Et il faut qu'à la fin, Will Smith, il tue la méchante et qui prennent l'apparence de sa petite fille. Non, c'est ça. Elle essaie, l'enchanteresse, de le stopper du coup
non,
qui est fatal, non?
C'est pas qu'elle leur donne des visions à tous. Genre, Harley Quinn, elle se voit avec le Joker en homme.
C'est quoi la vision d'Harley Quinn?
Je crois que c'est la pire scène de tout le DCU.
C'est en gros, elle se voit comme une femme normale, comme la Harley Quinzel qu'elle aurait été si elle avait pas rencontré le Joker, avec le Joker qui est pas le Joker, qui est juste Jared Leto avec les cheveux verts, et ils ont un enfant. Oh. Il part au travail et il fait un petit bisou avant de partir au travail.
Bah, c'est ça le film que le public adolescent voulait. Une histoire d'amour.
Je suis le premier à dire qu'on s'en fout de trahir l'œuvre originale à partir du moment où on veut dire quelque chose de nouveau et tout. Mais comment tu peux à ce point insulter les gens qui aiment les comics qu'avec cette scène? Vraiment, je ne comprends pas. Là, c'est quand même un niveau stratosphérique, quoi.
Ah oui, mais c'est niveau Joker qui va sauver Harley Quinn parce qu'en fait, arc, il est un peu amoureux et tout, mais non.
Mais ça, David d'ailleurs l'a dit plein de fois aussi, que la fin ne devait pas du tout être comme ça, que Harley Quinn devait se rebeller et pas du tout.
Parce que normalement, en fait, le Joker, enfin, c'était à la scène avec l'enchantresse là qui fait du dubstep. À la fin, il devait débarquer, dire à Harley, tu reviens avec moi. Harley, elle fait non, je reste avec mes potes. Et du coup, il fait ok, bah nique ta mère. Et du coup, il jetait une grenade en se barrant. Ça, c'est mon Joker.
Mathieu, tu rigoles. Tu te moques, c'est ça? Du higher cut?
Je moque de toutes les versions, toi. Aujourd'hui, on peut en rire quand même. C'est quand même...
En plus, moi, j'aimais bien dans le film cette idée d'aventure en décor urbain nocturne pendant une nuit, pas en temps réel, mais un peu l'impression que unité de lieu et de temps. Je trouvais que c'était cool. Genre, on vous lâche là, c'est le bordel. Il y a des créatures zombies dégueulasses de tous les côtés, et en fait, il y a pas d'ellipse, il y a pas d'autre paysage, c'est que ça. Moi, je trouvais ça assez cool.
Je suis d'accord,
comme
point
de départ.
Une seule mission de A à Z, et d'ailleurs James Gunn va reprendre l'idée telle quelle pour la suite, donc
c'est bien dommage. Combien a coûté ce truc? Il a coûté officiellement 175 millions. On peut dire que c'est sûrement beaucoup plus, parce qu'à l'époque il parlait d'un budget de reshoot de 22 millions de dollars. Pour information, les reshoots de Justice League, c'est 25 millions, donc ça vous donne quand même un ordre d'idée du bordel qui a été reshooté. Et apparemment d'ailleurs Zack Snyder a tourné la scène avec Flash pendant le tournage de Justice League. C'est quand il fait le braquage, non? C'est pas ça qu'il y a dans,
il semble,
dans Suicide Squad? On a tous oublié ça, en fait, on s'en fout.
Ouais, ouais.
Voilà. Et surtout le troisième acte qui a donc été changé. Donc ce film a, on va dire, coûté un peu moins de 200 millions et au box-office il a fait 747 millions, ce qui est franchement un succès. À l'époque, ça a été considéré comme un joli succès. La critique a été certes désastreuse, il y a une chute de fréquentation assez abyssale, mais dans la norme des films qui se vautrent de super-héros de ce côté-là. La critique certes extrêmement négative, mais le succès public est là, donc est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui a contribué à un peu foutre le bordel chez DC? C'est qui est-ce qu'on essaye de contenter? C'est que entre Batman v Superman et Suicide Squad la même année, Batman v Superman ne fait pas le score qu'ils espéraient puisque c'est pas le milliard. Suicide Squad est détesté par les gens, a été un chaos à gérer, mais les gens ont aimé au cinéma. Du coup, qu'est-ce qu'on fait?
J'ai l'impression que ce genre de paradoxe qui était déjà à la sortie de Batman v Superman un problème, là c'est devenu encore plus fort. Les projets de suite de Suicide Squad, de la même manière que Justice League et beaucoup de choses, vont être le résultat d'un tâtonnement assez dingue, d'en fait plein de gens qui passent leur temps à se contredire, à dire on devrait faire ça, pour arriver, bon, moi, on va revenir dessus, mais je pense que ce qu'ils ont fini par faire est le meilleur film de la saga, mais même sans penser ça, le cheminement qu'il y a de Suicide Squad 2016 à The Suicide Squad 2021 est chaotique et traduit une véritable fébrilité, et d'autant quand tu rajoutes dans l'équation Birds of Prey qui arrive comme un cheveu sur la soupe, au point d'ailleurs de dégoûter certains réalisateurs, enfin c'est dingue. Et s'ils galèrent autant après un de leurs seuls vrais gros succès qui est donc Suicide Squad du début, tu te dis qu'avec des films qui ont beaucoup à marcher, ça pouvait forcément pas bien se passer, et ça ne s'est pas bien passé du tout.
Et parce qu'à l'époque, il faut se souvenir qu'il parlait plus ou moins officiellement d'un film solo sur Deadshot, il parlait de films sur le Joker, Jared Leto et Harley Quinn, donc il y avait plein de trucs qui étaient lancés, et Suicide Squad devait être le début d'une autre partie de l'univers étendu, sachant que dans ce film, il y a Batman qui apparaît, à la fin, il y a Amanda Waller et lui qui discutent, et ils teasent clairement la Justice League, donc c'était vraiment, on est en train de poser toutes les pierres pour construire le truc DCU.
Ouais, même ils avaient pas parlé d'un truc spécifique sur le Joker aussi, ou un truc comme ça. Puis il y avait Destro qui était apparu dans la scène post-générique de BVS, donc ça faisait encore un méchant en plus à ajouter. Enfin,
c'était à la fin de BVS? Moi je confonds tout à ce stade. Pour moi c'était dans Justice League, non?
Ah, je sais plus.
Ouais, vous mettez le doute.
Sur son yacht là?
Ouais, avec Lex Luthor.
Le plan, là, nos cerveaux se sont éteints. Genre, à quel moment ce truc est arrivé?
Bah écoute.
En fait, esthétiquement, ils se ressemblent tellement les deux que je confonds.
Bah, c'est vrai,
alors que
Man of Steel,
il se démarque, tu vois.
À quel moment c'est censé avoir plus de sens? C'est... Non, mais Lex Luthor. Non, parce qu'à la fin de BVS, je crois que Lex Luthor est emprisonné. Donc c'est bizarre, c'est sur un yacht.
Si, 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 c'est vrai, parce que il dit, ah bah maintenant, parce qu'il y a Superman dans le Justice League qui est ressuscité, et lui, il devrait pas avoir A League of Our Own, tu sais.
Oui, oui.
Donc la Ligue d'Injustice, si vous voulez.
Ouais, voilà, c'est ça.
Justice League,
Et je pense que ça, c'est plus tard.
Et c'est qu'il utilise à la fin de Justice League.
Tu dis n'importe quoi, Déborah. Pourtant, la timeline de tout ce bordel est tellement simple, je sais pas où est-ce que tu t'es perdu. Et là, on arrive peut-être au sommet du DCU avec les sorties de Aquaman et Wonder Woman. Donc Wonder Woman en 2017, Aquaman en 2018. Là, on est passé après BVS et Suicide Squad, on passe un peu au miracle. BVS et Suicide Squad ont marché, mais avec un accueil qui est quand même assez frigide, pour ne pas dire catastrophique, avec des tournages qui ont été assez apocalyptiques. Et Aquaman et Wonder Woman, pour le coup, Wonder Woman a été applaudi, accueilli comme une espèce de miracle. Ils ont coupé l'herbe sous le pied de Marvel pour une fois en faisant le premier blockbuster centré sur une super-héroïne, puisque Captain Marvel arrivera en 2019, même si réalisé par une femme, sachant que Patty Jenkins avait refusé de faire Thor 2 chez Marvel et que le projet Captain Marvel était en développement compliqué depuis des années. Donc en fait, Marvel aura probablement essayé, peut-être qu'ils n'ont pas essayé assez fort. En tout cas, Wonder Woman a été accueilli comme une espèce de miracle. Moi, ce que je trouve assez drôle, c'est que si tu le compares à Batman v Superman, Batman v Superman a fait plus au box-office mondial que Wonder Woman, mais au box-office domestique, qui est très important pour les studios, donc le public nord-américain, Wonder Woman a débarré vraiment en dessous de Batman v Superman, malgré une critique extrêmement positive, contrairement à Batman v Superman. En gros, l'appel d'air Batman qui affronte Superman a été immense. Mais le bouche à oreille a été très différent pour Batman v Superman, donc Wonder Woman a fini par faire plus que Batman v Superman. C'est-à-dire que vraiment, c'est le public qui a porté le film. C'est pas juste la critique qui a dit que c'était bien parce que le public n'en a pas fait un succès aussi énorme que BVS lors du démarrage. C'est juste le public qui a adoré le film et c'est devenu un phénomène de fou. À l'époque, je me souviens, c'était hallucinant, quoi. On se demandait ce qui se passait.
Ah, mais tu sais, il y a des fois les livres, les 1000 films que vous deviez avoir vus, tous ceux qui ont été édités entre 2010 et 2015, souvent ils terminent avec Wonder Woman. Ce que je trouve.
Attends, il peut pas. En 2015, il est sorti en 2017, le film.
Ah
toi
oui,
aussi
pardon.
Tu dis n'importe quoi.
Tous ceux qui ont été édités dans cette période, dans cette période-là, tu vois, souvent, enfin moi en tout cas j'en ai vu qui terminent avec Wonder Woman pour faire le truc un peu pop contemporain, le film de super-héros contemporain.
Ouais, c'est clair.
Ça... planète, bonjour.
Non mais après je suis d'accord, on va pas revenir entièrement sur les qualités artistiques du film, hein. Je pense qu'on le trouve tous assez moyen avec des trucs bien et des trucs carrément à dégager. Mais j'avoue, je peux pas m'empêcher de trouver le film grave encourageant, bah pour la symbolique du film, genre le premier film de super-héroïne qui cartonne au box-office, que la critique aime beaucoup, que le public a envie de revoir, enfin qui est réalisé par une femme, qui a porté un blockbuster. Enfin oui, le film est important pour la place qu'il a dans l'industrie et parce qu'il ouvre en fait une porte là où elles étaient restées fermées jusqu'avant.
Donc quand on s'est parlé d'eux, je suis tout à fait d'accord. Évidemment, quand les gens sur le site disent oh, c'est parce que c'est fait par une femme que les gens ont défendu. Non, parce que si ça saurait, si ça marchait comme ça, mais il a marqué l'histoire, qu'on l'aime ou pas. Et en plus, le film, je crois que honnêtement, il est dans la moyenne normale en termes de qualité, voire au-dessus de pas mal d'autres. Il y a plein de scènes qui sont très bien foutues. C'est juste l'écriture qui est un peu naze. Le troisième acte est un peu pourri. Quand elle affronte avec le pouvoir de l'amour comme Sailor Moon, on a tous eu envie de parodier ça. On s'est tous moqué de ça parce que c'est naze. C'est aussi naze que la fin de BVS avec Doomsday sur le parking de quelle ville de merde, Metropolis.
Auchan.
mais ce qui est assez intéressant avec ce film, c'est qu'au-delà effectivement de la valeur historique qui est objective sur les femmes réalisatrices à Hollywood, sur la figure de super-héroïne, sachant que à l'époque où ils voulaient faire des films de super-héroïne, quand il y a eu les mails piratés de Sony, vraiment t'avais des producteurs, des vieux cons qui étaient à la tête de studio qui disaient les gens n'aiment pas les films de super-héroïne, regarde Elektra, Supergirl et Catwoman. Des films références, c'est sûr, hein, parce qu'il n'y a pas de films réalisés par des hommes sur des hommes qui sont vautrés. Et là, ça a prouvé d'un coup que, en fait, le public pouvait aller voir des films quand ils étaient à peu près bien faits et qu'ils pouvaient dire, ça nous intéresse, on y va, on s'en fout peut-être que ce soit une femme et réalisé par une femme, juste on l'aime bien. Voilà, tout simplement.
Oui, c'est vrai que ça a vraiment participé à un peu dissiper ce clivage de, il y aurait des films pour les hommes, des films de super-héros, mais pour les femmes, alors que, bah non, hein, bah comme on a vu cet été que les hommes allaient voir Barbie, bah oui, les hommes sont allés voir Wonder Woman en fait, comme les femmes vont voir Man of Steel ou BVS. Enfin, avec ce film-là, on a prouvé que le clivage était un peu ridicule et que penser comme les mecs piratés de Sony,
c'est
has been,
donc
en fait,
il a
tout
au
simplement.
Moins servi de modèle pour que des gens se disent, oh, en fait, on peut filer un gros budget à une femme et on peut faire un film sur une super héroïne et les hommes iront parce qu'ils peuvent s'identifier à autre chose que quelqu'un avec une bite qui leur ressemble, quoi. Putain, c'est fou, le grand pas pour l'humanité. Et ce qui est quand même intéressant que ce film aussi, c'est qu'il est devenu très rapidement il me semble, un objet d'étude théorique, notamment autour du cinéma. Ouais.
Sur le film Elgaze.
Je me souviens que très rapidement, il y a eu des bouquins, des extraits, des textes qui étaient écrits sur Internet qui vraiment analysaient ça très sérieusement et d'une manière hyper intéressante.
Mais oui, on en parlait dans la vidéo qu'on avait faite sur le premier Wonder Woman en 2020. Mais cette sortie de la tranchée qui a vraiment été un objet d'étude et d'analyse parce qu'elle sort de cette tranchée comme une James Bond girl pourrait sortir d'une piscine. Sauf que là, on n'est pas du tout sur la caméra objectifiante et hyper sexualisée. Au contraire, ça va être des gros plans, pas sur les seins et les fesses, mais sur les accessoires, sur vraiment faire en sorte que ce personnage soit puissant autre que par ses attributs physiques, quoi. Et oui, c'est vrai que j'aime pas ce film, mais la scène, elle te fait quelque chose quand même.
Quoi. Et je me suis aussi à l'époque dit que je suis pas fan de tout le kitsch sur l'île de, je prononcerai pas le nom, mais l'île des Amazones. Ouais, voilà.
Thémiscara.
Mais j'aimais bien le fait qu'elle y aille à fond. En fait, c'est pour moi, c'est comme le début de Man of Steel. T'ouvres les portes d'un univers. Eh ben, tu vois Krypton, tu le vois un petit moment. Bah là, tu vois son île, tu vois un petit moment, et tu vois les costumes, tu vois un peu. Voilà, c'est un autre univers. T'ouvres les portes d'un autre monde. Et ça, je trouve ça assez exaltant quand tu vas au cinéma voir ça. Dans le film, il y a plein de problèmes, mais au moins, il y avait une tentative qui se vaut au moins autant que les autres. Et Aquaman, si on passe au côté Aquaman qui arrivait juste après, bah Aquaman, lui, en termes de business, ça a été un truc de fou, puisque, encore une fois, c'est le film qui a fait le plus gros carton de tout l'univers étendu d'ici, qui a dépassé le milliard. Est-ce qu'à l'époque, quelqu'un arrivait à prédire ça? J'en doute fortement.
Franchement, là, c'est... Ouais.
Je sais pas vous, mais moi, clairement, le Aquaman avec Jason Momoa, c'était ma porte d'entrée, parce que avant, pour moi, Aquaman, j'avais ce souvenir de lui comme le super-héros que les personnages de Big Bang Theory ne voulaient pas incarner dans une soirée déguisée, parce que c'était le personnage le plus pété, c'était celui dont on se foutait de la gueule parce qu'il parlait aux poissons. Et du coup, quand le Aquaman de Jason Momoa, donc figure très...
masculine, virile, Game of Thronesque, excitante, je sais pas, cheveux longs.
Ouais, c'était un peu là-dessus, mais oui, un peu d'accord. Plus intellectuel dans le propos, mais enfin bon, on va dire ça, c'est pas grave.
J'essaie de trouver un truc, mais j'arrive pas là.
Mais en tout cas, qui a vachement plus de charisme que ce à quoi on pouvait s'attendre. Carisme, je trouvais que c'était...
C'est très vague, ça veut tout rien dire.
Exactement. Mais il y avait vraiment ce truc de refaçonner, de réinventer un personnage qui, pour moi, était juste le personnage Asbin de la Justice League, qui avait un costume en écaille, qui était ridicule. Et au final, ils en ont réussi à faire un personnage cool, que les gens aimaient. J'ai vraiment trouvé ça...
miraculeux. Inattendu. Moi, je connaissais pas du tout Aquaman, donc je t'avoue que je l'ai vu avec Jason Momoa, je me suis dit, je ne savais pas que c'était un blondinet qui marchait sur des espèces de poissons volants là avec des lèvres. Et c'est drôle d'ailleurs parce que Jason Momoa raconte qu'il avait passé le casting pour jouer Batman et qu'il ne l'a pas eu et que quelques semaines après, Zack Snyder l'a appelé pour lui dire, hey, tu jouerais pas Aquaman, parce que Aquaman apparaît sur la clé USB dans Batman versus Superman.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mais ouais, donc ce film a été sacrément dingue. Et là, ce qui est assez intéressant entre Patty Jenkins sur Wonder Woman et James Wan sur Aquaman, c'est qu'ils ont pris des vrais réals, des gens qui ont fait des trucs intéressants avant. Puisque Patty Jenkins avait fait Monster avec Charlize Theron, pour lequel elle a eu l'Oscar.
Excellent
très film. Bon film, et je crois qu'elle a eu une légère traversée du désert quand même à un moment, hein. Donc c'était pas mal, puisqu'elle a, donc c'est peut-être là, dans cette zone du désert, qu'elle a essayé de faire Thor 2 et qu'elle s'est finalement dit ça pue la merde, j'y vais. Et James Wan avait fait Insidious, Saw et tout, donc c'était un petit malin. C'est des gens qui viennent du cinéma indépendant, mais du bon cinéma indépendant. De toute évidence, c'est ça que je trouve assez cool avec cette époque, parce que les films ont marché et en plus ils ont filé les rênes à des réals qui ont des univers différents, qui ont été assez à fond chacun de leur côté, puisque dans Aquaman, il y a des scènes où, pareil, il va archi à fond, que ce soit le côté un peu horrifique ou juste la gestion des effets visuels, qui est assez dingue et unique dans le genre.
Ouais, c'est poussé l'idée dont tu parlais sur Man of Steel, de on pousse les potards et on réfléchit pas trop à si ça se tient d'un point de vue... on va dire... narratif ou quoi, tu vois. Voilà, on les pousse et advienne que pourra, et moi, en tout cas, c'est ce qui me fait... En fait, J'aime bien Wonder Woman pour la raison que j'aime bien Aquaman. Ils sont assez similaires dans l'idée où c'est vraiment du comic book movie hyper pop, hyper débridé, qui réfléchit pas trop à ce qu'on va dire de lui, qui pousse ses idées même quand elles sont de très mauvais goût, parce que putain, dans Aquaman
les cheveux des gens
Drive Forward de la mort c'est un délire quand même. Et ouais, tu vois, ça rentre aussi avec le pouvoir de l'amour de Wonder Woman. Oui, c'est ridicule, mais mine de rien, on peut pas leur reprocher de pas y aller vraiment fort dans ce comic book movie très très rentre dedans, très ouais. très premier degré. Et finalement, sur Wonder Woman, ça aurait été difficile de lui donner une approche très gritty, Nolan, Snyder.
Bah, visuellement, ils ont
dire,
un peu essayé.
C'est un personnage qui a un avion invisible, quoi.
La photographie
donc,
du film, il y a plein d'effets où tu sens qu'ils prennent une partie, mais la partie superficielle du cinéma de Zack Snyder, et qui rajoute un côté très pop, très très léger, avec beaucoup d'humour. La relation qu'elle a avec le mec, c'est vraiment quand Chris Pine est à poil, quand elle découvre comment tu manges une glace et tout. Si, il y a une scène où Chris Pine est à poil, tu sais.
Je croyais qu'on était encore sur Aquaman, c'est pour ça.
Non, mais il y a une légèreté quand même dans Wonder Woman qui est largement assumée. En fait, c'est deux films que tu peux aller voir, que tu peux vendre à des potes en disant c'est sympathique, que tu passes un bon moment.
Ah bah oui, il y a carrément la scène où elle passe dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale et t'as quasiment pas de cadavre, ou alors t'as juste une personne qui s'est fait arracher la main.
C'est
alors que bon,
tout le monde vit son bouclier.
Oui,
quoi,
mais je pense que c'est des succès qui finalement ont autant fait de bien que de mal à la trajectoire voulue par Warner, parce que là, pour le coup, ils étaient en plein CSC, c'est-à-dire que la trajectoire hyper sombre voulue par Snyder, elle faisait son truc dans son coin, elle remportait pas un grand succès critique, et par rapport aux spectateurs, c'était bien, mais un peu en dessous de ce qu'ils voulaient. Et de l'autre côté, t'avais ces films sur des héros qui avaient été peu représentés au cinéma, qui étaient hyper pop, complètement débridés, complètement rentre-dedans, complètement cons, en fait, qui, eux, pétaient tous les scores dont ils auraient jamais rêvé sur leurs autres films, enfin, du moins, qu'ils voulaient atteindre sur leurs autres films. Et je pense que c'est là qu'en interne, chez Warner, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, évidemment, entre les deux films, il y a un petit événement qui a foutu la merde particulièrement. Mais je pense que le succès des deux films a aussi a eu un impact aussi sur ce genre de confusion totale qu'il y a eu chez Warner ensuite de dans quelle direction on va aller. Ils en savaient rien parce que ils étaient complètement perdus. Ce qu'ils voulaient faire, c'est pas concrétisé comme ils voulaient. Et Aquaman, à mon avis, ça devait être un peu un pari quand même. Et il était plus reporté que ce qu'il espérait, je pense. Et d'ailleurs, encore une fois, pour la suite, ils ont un peu paniqué. Ils auraient pu ressortir très vite après pour vite capitaliser. Mais ils savaient pas trop. Il y a eu l'idée de faire un spin-off sur la trench, là, qui est la scène trop cool, très James Wan avec les créatures aquatiques. Donc ils voulaient faire un spin-off horrifique, etc. Qui du coup aurait emmené la saga dans un côté un peu plus segmenté, tu vois, il y aurait eu des trucs très horrifiques, des trucs très grand public, et ils ont clairement dû se dire en fait on va pas faire ça, on va rester sur l'univers partagé presque sous Snyder puisque lui il est plus dans l'équation. Et
c'est que Zack Snyder était là dès le début et que il y a beaucoup de choses qui étaient lancées avec lui, et quand ils ont commencé à récolter des premières preuves qu'il y avait des problèmes avec cet univers, la machine était déjà lancée, parce que Man of Steel a lancé dans la foulée BVS, et après BVS il y a eu Justice League qui est sorti en 2017, et au milieu de ça il y a eu les Suicide Squad, il y a eu les Deadpool, il y a eu Wonder Woman, Aquaman, tout ça est arrivé un peu en parallèle. Peut-être que dans une autre version de la réalité, Warner aurait aimé pouvoir mettre un stop à l'univers de Zack Snyder ou le freiner. Le problème c'est qu'en fait il était lancé sur les rails, quoi, tout était là, les trucs étaient financés, c'était écrit, il pouvait pas virer Zack Snyder parce que c'est pas comme si non plus c'était l'ennemi de Warner, mais disons que le truc a été lancé à toute vitesse pendant qu'à côté ils essayaient un peu de récolter des leçons, un peu comme le MCU a fait avec les premiers films. Donc ils se retrouvent à un moment coincés entre les deux potentiellement, et à l'époque les analystes aux États-Unis disaient en fait ils ne pouvaient pas virer Zack Snyder même s'ils avaient eu envie de mettre un stop à Justice League pour ralentir, pour rectifier le tir. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Justice League et à tout ce bordel autour. Parce que peut-être qu'en fait, imagine, dans une version parallèle, ils auraient fait Man of Steel, puis Wonder Woman, Suicide Squad, Aquaman, avant qu'il y ait un BVS ou un truc comme ça. Peut-être que là, ils auraient pu rectifier et se dire, en fait, quand on arrive à Justice League, les trucs sont installés de manière un peu plus paisible, un peu moins chaotique, et juste on sait où on va, quoi.
Quand ils pensent, c'est quand même dingue qu'ils aient attendu aussi longtemps pour faire un film Justice League, qui est quand même le truc qui condense toutes les grands super-héros qui n'étaient pas si connus, enfin qui étaient connus justement, même auparavant, contrairement, tu vois, à Avengers ou à l'époque, oui, Iron Man, etc., c'était pas connu avant le MCU. Je parle par le grand public, je veux dire.
Oui, c'est ça, à la limite, mais...
Oui, voilà, tu vois, alors que là, Batman, Superman, enfin, dès les années 40-50, tout le monde sait ce que c'est, tu vois. Ouais, voilà.
La Sainte Trinité de DC, comme on disait. Batman, Superman, Wonder Woman, déjà, c'était énormissime.
Mais oui, le projet le plus alléchant est celui qui a le plus failli voir le jour avant Justice League, donc avant Man of Steel même, c'est évidemment Justice League Mortal, qui a été annoncé par Variety en 2007 avec Michel et Kieran Mulhoney à l'écriture. Et c'est un projet qui a beaucoup fait rêver, car quelques mois après a été annoncé le réalisateur, à savoir monsieur George Miller, post Happy Feet, donc au top de sa forme. Le studio voulait un tentpole de super-héros pour 2009 et donc a mis totalement la prio sur ce projet qui était vraiment censé voir le jour, mais ils en étaient sûrs et certains, quoi. Donc c'est un truc très très ambitieux, avec notamment Armie Hammer en Batman. Voilà.
C'était une balle là.
Oui, clairement.
C'est clair. Est-ce que c'est pire qu'Ezra Miller? On ne sait pas. Donc ils ont mis la prio parce qu'ils voulaient un Deadpool pour 2009, mais aussi, même si ça ils le disaient pas trop à l'époque, mais c'était évident, parce que des grèves de scénaristes commençaient à menacer à l'horizon. Et c'est un peu une des choses qui a foutu un peu la merde, parce qu'avec les grèves qui arrivaient, ils ont mis un peu le pied sur l'accélérateur sur toutes les stades de la pré-production, du casting à l'écriture. Nolan, à l'époque, qui commençait à faire ses Batman, lui, il était en mode « Je préférais quand même que vous me laissiez terminer mes Batman !» Mais Warner, ils s'en foutaient parce qu'ils voulaient leur gros film avec Batman et Superman et un gros film de super-héros. Alors, à une époque, d'ailleurs, afin de ne pas trop empiéter sur la trilogie Dark Knight qui était en train de se développer, ils ont étudié l'option de le faire en full CGI, un peu comme à la Beowulf de Zemeckis, tu sais,
oh, putain,
motion capture.
Grandiose idée, quoi.
Ouais, mais ils ont vite abandonné. Peut-être qu'ils ont vu les chiffres au box-office de Beowulf. Et on parle ici et là, même si j'ai rien vu de très officiel, de 220 millions de dollars de budget. Donc on est sur un très 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 gros film. Donc tout allait plutôt bien jusqu'à 2008 où ça a été mis en pause. Et Warner dit que c'est à cause de problèmes de tax breaks, donc de ristournes fiscales, voilà, de la part de l'Australie, où il devait tourner le film, comme beaucoup de films de George Miller, qui est un peu un ambassadeur auprès d'Hollywood.
Avec la belle publicité qu'il a fait pour le tourisme en Australie avec Mad Max, qui donne envie d'aller
explorer
les routes de l'Australie, évidemment.
Et donc eux, ils disent que c'est la raison pour laquelle ils ont dû faire pause. Mais dans la foulée, il y a eu un porte-parole du gouvernement australien qui a démenti le CP de Warner et qui a dit que en fait c'était des délais créatifs par rapport au script qui avait été fait très très vite et qu'ils pouvaient pas résoudre ces problèmes créatifs étant donné qu'il y avait la grève des scénaristes et que du coup il fallait attendre et du coup ils leur ont mis sur le dos a priori leur propre problème. Mais il devait quand même y avoir un problème puisque après la grève, alors qu'ils visaient toujours un tournage en 2008 pour une sortie en 2009, ils ont fini par se barrer de l'Australie qui leur a pas accordé la ristourne sous prétexte qu'ils n'avaient pas assez d'acteurs australiens, ce qui a beaucoup énervé George Miller d'ailleurs, qui dit qu'ils ont fait la connerie de leur existence en gros. Et ils planifient toujours de le tourner en juillet 2008, alors je crois qu'ils voulaient le tourner au Canada finalement, sauf qu'en juillet 2008 il y a un petit film qui sort et qui s'appelle The Dark Knight et qui fait un score tellement astronomique qu'il va imposer Christian Bale en Batman absolu. Et donc là, qu'est-ce qui a vraiment fait qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout du projet? Alors, ils n'ont jamais complètement annulé. Ils l'ont mis en pause le temps de terminer les films de Nolan, comme ils le voulaient à la base. Sauf que bon, au bout d'un moment, c'est mort. Mais je pense que c'est pas difficile de se mettre à la place des exécutifs de Warner et de se dire que imposer un nouveau Batman alors que Christian Bale est en train de refaire leur compte en banque, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Et donc, c'est bien dommage que ce Justice League Mortal n'existera jamais a priori, parce qu'il avait l'air très très cool, hein. Miller est revenu dessus à de nombreuses reprises et c'était vraiment un projet très alléchant.
Il y a des concept art non qui sont sortis où tu vois notamment Wonder Woman voler au-dessus d'une ville et tout, il y a pas mal d'images, mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'en 2008 il y a The Dark Knight et il y a aussi Iron Man en face, donc en fait ce film, s'il était sorti vraiment à peu près à cette époque ou s'il avait été lancé et ne pouvait plus être arrêté, ça aurait été un tel bordel de se dire qu'en même temps tous ces films arrivaient avec potentiellement des visions très différentes. Si Justice League de Miller avait été bien, on aurait eu le MCU, le Dark Knight, l'univers Dark Knight et l'univers Justice League de George Miller. La folie quoi.
Mais bon. Donc ce film aurait vraiment créé une autre vision, on va dire, de la Justice League, puisque les personnages prévus étaient quand même donc Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman, Martian Manhunter, qui est toujours porté disparu dans le DCU. Ah oui, c'est vrai qu'il a
il a une apparition
dans le Snyder Cut. Talia al Ghul, Maxwell Lord, donc
mais ils étaient combien ?
Il y a du beau monde.
Et le casting n'est quand même pas déconnant. Donc, outre Armie Hammer en Batman, il y avait aussi Deji Kutrana en Superman, Megan Gale en Wonder Woman et, moi j'aime beaucoup, Adam Brody en Flash et en une autre version de The Flash, le regretté Anthony Yelchin qui aurait été, je trouve, très bien. Ah, voilà. Donc, projet un peu fantasmé et sur les cendres desquels est né le Justice League du coup qu'on connaît, et ça va pas bien se passer non plus.
Ouais, parce que à l'origine Justice League était annoncé comme un film en deux parties, comme d'ailleurs Avengers Infinity War Part 1 et Part 2 à une époque, hein, qui étaient des films encore plus liés, en tout cas dans le titre. Donc en octobre 2014, c'est annoncé en deux parties. Le premier doit sortir en 2017, il est vraiment sorti en 2017, et le deuxième devait sortir en 2019. Mais entre-temps, quand Batman v Superman est sorti, Snyder était évidemment invité à parler de ça dans la presse, et là il a dit « en fait, il y aura un film ». Et le deuxième, c'est pas la deuxième partie, ce sera un autre film. Donc ça commençait déjà à peut-être un peu revoir les plans de partie 1 et partie 2. Et encore une fois, on revient à cette idée que même si Warner voulait changer des choses, il pouvait plus trop virer Snyder. En fait, tout était un peu lancé. Donc c'était peut-être déjà une manière de freiner. Dans tous les cas, le film est tourné officiellement de avril à octobre 2016. Et arrive une petite chose déjà. Premier gros problème dans l'équation, c'est qu'en octobre 2016, Warner est racheté par le géant de la téléphonie AT&T. Et on va voir que ça aura une importance, puisque la question des actionnaires, de la thune, de la peur, des délais, et surtout de la date de sortie à ne pas changer, et des espèces de bonus ou je ne sais pas quelle connerie, vont rentrer vraiment en ligne de compte pour les meilleures, pires décisions qui peuvent être prises autour de ce film. En décembre 2016, dans la foulée, le président de Warner, qui est là depuis 2013, donc depuis le début du DCU, part. Il est remplacé par Toby Emmerich, quelqu'un dont on va beaucoup entendre parler par la suite, qui bosse directement sous la direction de Kevin Tsujihara, qui est là aussi depuis 2013. Donc en gros, faut retenir que pendant que Justice League est en train d'être fini en post-prod, il y a beaucoup de changements de direction chez Warner, avec beaucoup de questions de thunes, d'actionnaires, donc tout ça, ça a changé beaucoup de choses. On est en janvier 2017, un premier montage est rendu de Justice League, personne n'est satisfait. Dans la foulée, Joss Whedon est engagé à l'époque, et quand on relit les trucs de l'époque et qu'on essaie un peu de reconstituer les choses, Joss Whedon a été engagé pour des réécritures, mais de manière officielle. Zack Snyder était encore là, et en gros c'était un script docteur, comme ça arrive très souvent dans les blockbusters, quelqu'un qui était là pour, évidemment, je vous le donne en mille, rajouter un peu d'humour. Il a été engagé explicitement pour ça, parce qu'il venait de chez Marvel avec des Avengers où il y avait beaucoup d'humour. Jusque là, ça va à peu près. Sauf que...
C'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
Surtout que là, sans rigoler, un truc très sérieux arrive, puisque la fille de Zack Snyder se suicide en début 2017. Donc Zack Snyder, au début, il pense de ce qui a été raconté, de ce que je crois, les paroles qui ont été liées à ce qu'il a dit lui-même à l'équipe. Il voulait un peu quand même s'accrocher à ce projet et se réfugier un peu dans le travail. Rapidement, en fait, il a dit qu'il se mettait en pause, évidemment. Donc en mai 2017, il se met en pause sur le projet Justice League. Et Joss Whedon, du coup, est choisi, puisqu'il était déjà là pour des réécritures, pour reprendre les rênes du projet. Sachant qu'entre parenthèses, Zack Snyder a dit qu'à l'époque, il s'était barré avec le film sur disque dur, comme souvenir, et que Warner n'était pas trop d'accord, mais que, comme ils étaient en confiance avec lui, donc il n'y avait pas de problème. Donc on est en mai 2017, et c'est là qu'il y a vraiment la première grosse bifurcation sur Justice League. Et dans la foulée, il se passe un petit truc, c'est aussi que Wonder Woman cartonne, il sort en pleine post-production chaotique de Justice League, le film sort au cinéma avec l'étiquette Zack Snyder, mais comme on disait dans la réunion la semaine dernière, c'est du Zack Snyder mais allégé, c'est un truc plus pop, plus light, c'est pas des gens qui font des grands discours métaphysiques ou qui essayent de faire des discours métaphysiques sur la figure du super-héros, c'est un truc sur le pouvoir de l'amour et le fait que c'est joli d'être amoureux et que bah il y a des jolies lumières et ton bouclier il t'arrête contre tout, contre même les méchants et contre leur méchanceté. Donc ça change un petit peu la donne. Et Joss Whedon, qu'en plein milieu de tout ça, on lui demande de réécrire des trucs légèrement. Il se dit de toute évidence qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Et en juillet 2017, 2 mois de reshoot avec Joss Whedon et un budget de 25 millions de dollars, ce qui est énorme.
Ce qui est presque le double de Godzilla by the Swan.
J'adore sur l'échelle de comparaison. Et pour rappel, les reshoots de Suicide Squad, c'était un petit peu moins. C'était déjà un sacré bordel. Là, c'est des reshoots absolument massifs. Ça s'est dit que 3/4 du film aurait été refait, dégagé, sachant qu'il faut tenir la barre.
Toutes des versions différentes là-dessus. À l'époque, je me rappelle que il y a les mecs du studio, ils sont en mode, oui, on a fait tout 80% est à l'image, et puis Snyder est arrivé en mode, ils ont récupéré que 1/4 de mon film, et je crois que finalement on a appris que Whedon avait refait quand même 80 pages de script sur un film de 2 heures. C'est quand même beaucoup.
Rien que le principe d'avoir un film de 2 heures, c'est tellement réduit par rapport à avoir un film en 2 parties sur une histoire aussi ambitieuse. ambitieuse que Steppenwolf, les Mother Box et tout.
Imposé par Tsujihara, les deux heures d'ailleurs. Ouais. Du coup, ils se sont calés pile sur les deux heures. Mais pourquoi ? Quelle idée à la con, alors qu'aujourd'hui, on fait des films
débiles,
hyper longs qui cartonnent, alors que Aquaman a cartonné l'année d'après en dépassant les deux heures. Je ne comprends pas.
C'est vrai que c'est insensé.
Puis surtout qu'ils avaient déjà eu le cas BVS où il y avait eu le charcutage de la version ciné qui n'avait strictement aucun sens, on comprenait rien, donc ils avaient déjà ce truc de peut-être que faire un film super ambitieux avec plein de super-héros à l'affiche qui fait que deux heures, c'est pas la meilleure idée.
Non, clairement, le truc des deux heures des reshoots et de ne pas changer la date de sortie qui est restée à novembre 2017. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le film est tourné jusqu'à fin 2016. La post-prod bat son plein tout 2017. Des reshoots en juillet pour un film qui sort en novembre. C'est la recette du désastre avec un film qui a autant d'effets visuels.
Et toi, à la place des mecs de la post-prod, genre des artistes VFX, ils devaient cauchemarder la nuit, quoi.
Et surtout quand il y a eu le Moustache Gate de Henry Cavill, puisque lui, il est en train de tourner Mission Impossible Fallout, ils ont demandé à ce qu'il revienne pour les reshoots, et il avait une moustache pour son rôle absolument magnifique dans Fallout, là. Et Christopher McQuarrie, le réalisateur scénariste de Mission Impossible, leur a dit « Non, non, mais il peut la raser. » Et en fait, le studio Paramount a dit « Non, 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 il la rase pas, allez vous faire niquer. » Du coup, ils ont retourné avec Henri Cavill et sa moustache, et après, il a fallu effacer la moustache dans des délais absolument fantastiques, quoi. Donc ça aussi, tu dis, mais du côté de Paramount, ils ont dû dire, les gars, ça va être génial, on va leur foutre dans la gueule, on va ruiner Warner avec une moustache, avec les poils d'Henri Cavill, quoi.
J'imagine les mecs de Paramount scroll les trends Twitter le jour, tu sais, et jubilé. Ah, t'as vu, ils ont tous repéré sa moustache. Mais la scène est hilarante quand même. En le revoyant, en plus le fait que ce soit tourné un peu en mode
téléphone
et tout, c'est tellement
ridicule. Ça commence avec ça en plus, quoi. C'est vraiment génial, putain.
C'est tellement, il se tire à chargeur dans le pied après 30 secondes de film. Allez.
Non, mais c'est là qu'il y a un côté un peu kamikaze. Je sais pas qui en avait conscience et qui l'a fait, mais écoute, ça semble aller dans le mur. Et en novembre 2017, donc le mois de la sortie du film, le média The Wrap sort que en réalité, ce serait selon eux vraiment des questions de bonus d'argent qui font que le film n'a pas été repoussé. Parce qu'en fait, pendant tout ce bordel, des films qui ont droit à des reshoots qui sont repoussés, ça arrive. Hein. Marvel l'a fait plein de fois. En fait, ça arrive très souvent et c'est pas grave en soi. C'est même plutôt malin et intelligent d'un point de vue commercial. Mais là, la date de sortie a été tenue parce qu'apparemment, Toby Emmerich et donc son boss Kevin Tsujihara avaient visiblement peur de potentiellement être dégagés l'année d'après et de faire une croix sur leur bonus. Donc le meilleur moyen de garantir ça, c'était de sortir le film et que tout soit plié, quitte à ce que ce soit le chaos. Alors quel bonus ont-ils touché sur un film de ce genre-là, vu le score qu'il a fait? C'est une grande question. C'est pour ça que je rappelais le rachat par AT&T, c'est qu'il y a vraiment une question d'actionnaire, de business qui rentre en ligne de compte. C'est pas juste, ils voient le film, enfin il me semble, c'est pas juste, ils voient le film et se disent qu'est-ce qu'on en fait, comment il est bien, c'est, il faut rassurer les actionnaires, il faut correspondre à un calendrier, il faut tenir plein de trucs. Toujours est-il que ça a donné ce film et ce cosmico crash, quoi.
Ou même, genre, juste cette construction, quand même, assez bizarre de l'univers, où t'as Wonder Woman, Justice League, Aquaman, alors qu'il y aura quand même plus une logique d'avoir les deux films solo de deux des gros héros de la Justice League après BVS, et ensuite, tu les réunis dans Justice League, quitte à faire aller The Flash plus tard, ou à pas voir tous les films. Mais ça, j'ai jamais trop compris, en fait, pourquoi il y avait vraiment Justice League au milieu des deux.
Bah, ouais. Ah bah, The Flash, ils l'ont fait plus tard, pour le coup.
Bien plus tard.
En théorie, pour rappel, l'ordre des films, c'était BVS, Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League 1, et ensuite The Flash, Aquaman, Shazam, Justice League 2.
Plutôt malin, en soi.
C'était, et après, il y avait Cyborg et Green Lantern, sûrement, qui étaient importants dans Justice League 2. Si on a en tête le Snyder Cut, c'est des trucs qui devaient arriver, puisque les Green Lantern apparaissent vite fait, et puis Cyborg, évidemment, était central. Bon, si on parle de business, parlons de business jusqu'au bout, hein, le film aura coûté dans les 300 millions avec les reshoots. C'est...
On saura un jour le vrai montant.
Entre ça et The Flash, je pense que les films ont coûté un milliard à eux deux. En tout cas, 300 millions de budget, sans compter le marketing, pour 661 millions au box-office mondial. Alors, c'est-à-dire que ça fait, par rapport à Man of Steel, ça fait à peu près pareil. Pour vous rendre compte du bordel, quand même. Un film qui a coûté un peu plus cher quand même, surtout avec beaucoup plus d'emmerdes et surtout qui était la réunion de tous les héros qui étaient leurs Avengers. Donc là, il y a aucun moyen de prendre ça sans se dire que c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'ils attendaient, c'est un flop. Et à l'époque d'ailleurs, c'est drôle puisque évidemment ce truc a été traité par tous les médias, ils appelaient ça le flop qui a fait le plus de thunes, tellement ça rapportait beaucoup, mais c'est un flop parce qu'en fait les enjeux sont tellement astronomiques que même avec plus de 600 et quasiment 700 millions, ça reste un échec. Perte de 60 millions selon Deadline parce que la rentabilité aurait été à 750 millions. Donc il manquait quasiment 100 millions. Et donc le film sort en novembre 2017 et en décembre 2017, la Warner restructure DC Films, John Berg est remercié, Walter Hamada est engagé, donc clairement c'est officiel, net et précis, ce film a été le point de rupture, la catastrophe ultime, il a fallu rechanger la stratégie, changer les gens qui étaient là et essayer de un peu retricoter le truc, mais voilà, ça a été un chaos. Avez-vous un commentaire sur ce chaos? Parce que c'est quand même un cas d'école absolument dingue. Je pense que même des années après, sans même parler du Snyder Cut qui est né sur ce cadavre, c'est un truc de fou ce qui s'est passé avec ce film.
Ouais, c'est un peu la... Sans parler en fait de même de DC et de l'univers, c'est le cas d'école du crash hollywoodien, dans le sens où tout ce qui aurait pu mal se passer, c'est mal passé. En plus, enfin, c'est-à-dire que t'as plusieurs types de facteurs. T'as les mecs du studio qui font n'importe quoi sous pression d'intérêts financiers beaucoup plus hauts, qui font n'importe quoi de ce fait. D'un autre côté, t'as un facteur humain avec évidemment la tragédie évidemment qui a été la mort de la fille de Zack Snyder. Tout ça ensemble, c'est une catastrophe absolue. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que pendant les vacances, j'ai rattrapé la dernière saison de Succession. Et il y a tout un arc autour d'un gigantesque blockbuster de super-héros qui se pète la gueule. Et en fait, ils s'accrochent tous à leur bonus et ils virent des trucs de studio. Et en fait, ils s'en servent comme moyen de pression pour faire échouer une vente, des trucs comme ça, tu vois. Et c'est trop drôle parce que je pense que c'est impossible que les gars qui ont écrit ça, ils ont pas pensé à Justice League en l'écrivant. Parce que comme tu dis, on parle beaucoup des mecs de Warner, etc. Mais l'impact qu'il y a eu et le rachat par Etienne et AT&T,
pardon. On dirait un truc dans Star Wars, je trouve.
C'est vrai.
Ce qui est à peu près l'image métaphorique qu'on pourrait donner au truc.
Ouais, c'est ça. Il y a une forme d'absurdité de Hollywood qui est assez, à la fois un peu savoureuse et un peu triste c'est des conflits d'argent de partout et on rentre dans un niveau d'absurdité par rapport à l'argent financé par ces films qui va peut-être atteindre son paroxysme avec évidemment Bad Girl et des trucs qui d'un point de vue humain, psychologique, tu te dis mais comment des systèmes financiers peuvent permettre ce genre de choses d'arriver.
Ouais, surtout que le film avait tellement juste tout pour réussir, enfin je sais pas vous mais moi personnellement quand il y avait les premières bandes annonces et tout ça qui sortaient, moi la Justice League c'était le dessin animé de quand j'étais petite et tout, du coup il y avait vraiment l'excitation. Je me suis retrouvée face au truc, j'avais pas l'esprit critique que j'ai aujourd'hui, mais déjà je me disais mais c'est quoi ça, on se fout de ma gueule ou c'est comment, alors que sur le papier il y avait juste absolument tout pour faire rêver. Et au final c'est devenu le film qui était censé être le film que j'attendais trop, est devenu en fait l'espèce de feuilleton qui m'a suivi aussi tout le long de mon stage chez Écran Large et puis après quand j'ai intégré la rédaction. Mais je me rappellerai que je pense longtemps de toutes les déclarations, de tout ce qu'on a appris sur Joss Whedon, de comment s'étaient passés les reshoots, et ensuite il y a eu l'affaire Ray Fisher avec Walter Hamada et tout ça. Ça a tellement, enfin, parti d'un film et te montrer la catastrophe hollywoodienne et de l'industrie, les sommets d'aberration jusqu'où ça peut arriver, avec Joss Whedon qui était visiblement un très méchant personnage sur le plateau avec toutes les personnes.
Une ordure de toute évidence.
Oui,
c'est clairement une pourriture. Une composante de plus du crash hollywoodien multiple. C'est qu'en plus, ils ont engagé une grosse ordure pour.
Alors que de base, ils avaient engagé le gars qui sortait d'Avengers, c'était quel X-Men ?
Il avait été script docteur sur le premier X-Men.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais
donc, quand même.
Il était implanté dans le système et il était reconnu comme un bon scénariste.
Voilà,
Buffy, avec tous les films sur lesquels il a bossé. Ouais.
Premier Avengers, moi perso, je l'aime énormément et tout ça. Donc tu te dis, mais forcément, ça devait fonctionner.
Mais en plus, au-dessus de lui, c'est ça le truc, c'est que si on rajoute à la liste vraiment de tous les problèmes, c'est qu'au-delà de Joss Whedon, il est engagé par des ordures dont l'ordurité a été reconnue par la suite. Parce que en 2019, donc 2 ans après la sortie de Justice League, Kevin Tsujihara, qui était donc le méga boss, a été viré ou a démissionné, choisissez le mot que vous voulez, car accusé d'agression sexuelle. Voilà. Donc par la suite,
ordures qui ont engagé des ordures pour protéger leurs intérêts, quoi.
Et c'est ce que Ray Fisher a commencé à dénoncer dès 2020 en disant qu'en fait tous ces gens-là se couvraient, tout le monde était des bâtards et couvrait les autres pour différents motifs. Donc Ray Fisher a commencé à parler des comportements odieux de Joss Whedon, de Geoff Jones, de Toby Emmerich, de John Berg et de Walter Hamada, ce qui a été plus ou moins corroboré par les autres, notamment Gal Gadot qui a expliqué comment Joss Whedon lui a parlé et l'a menacé sur le plateau en foutant la gueule de tout le monde.
La réponse de Joss Whedon était un aveu d'échec, quoi. C'était, il a avoué en disant que oui, peut-être qu'elle comprenait pas très bien parce que l'anglais c'est pas sa langue maternelle. Alors franchement, au quotidien, j'ai pas envie de défendre Gal Gadot, mais alors là, par contre,
ça c'était génial, parce que donc 2 ans après tout ce bordel, Joss Whedon a accordé une interview à genre au New York, je ne sais pas quoi, enfin un truc un petit peu prestige, un long portrait où il était censé se défendre, un peu se remettre sur la rail. En fait, effectivement, c'est là qu'il a dit, je pense que Gal Gadot a pas compris, vous savez que l'anglais c'est pas sa langue maternelle. C'est genre Tu sais, tu te dis, mais jusqu'au bout, le mec, vraiment, il s'enterre, quoi, avec le sourire.
Il y avait ses conseillers en com dans les coulisses qui ont fait, oh putain.
Et Gal Gadot a répondu, puisqu'on lui a évidemment posé la question, elle a dit, je me souviens très bien de ce que j'ai entendu. Pas besoin d'en dire plus. Et au milieu de ça, pour juste sur le côté artistique, le scénariste Chris Terrio a dit que le film sorti au cinéma était évidemment une énorme bouse et qu'il voulait en retirer son nom du générique, mais qu'il ne pouvait pas. Et que, bon voilà, en gros, il y a absolument personne qui a réussi à défendre ce film ou qui a même essayé, puisque Joss Whedon lui-même, à l'époque, je me souviens, qu'il likait sur les réseaux sociaux et sous-entendait, en fait, il validait et likait des trucs qui taclaient le film pour en fait s'en désolidariser. Donc en fait, personne n'était responsable de ce truc. Je pense que même Joss Whedon doit considérer que c'est les producteurs doivent dire que c'est leurs collègues, les collègues doivent dire que c'est AT&T. Ça doit être juste, en fait, c'est le film de personne, mais c'est le chaos de tout le monde, parce que bah au final, ça a été un tel massacre qu'ils ont dû changer de stratégie, en tout cas en surface, changer d'équipe. Et moi, je sais même pas quel souvenir j'ai du film, tellement c'est... Tu sais, c'est même pas comme The Flash. Je trouve que c'est encore plus insipide et vide que The Flash parce que tu vois même plus de miettes de quoi que ce soit. Tu comprends même plus ce que c'était censé faire. C'est juste une espèce de d'accumulation de scènes de gens qui parlent et t'arrives même pas à voir l'embryon d'une petite ambition. Il y a juste plus rien.
Au final, c'est quasiment le Justice League 2 qui ne sortira jamais, qui est plus intéressant que le premier Justice League parce qu'après, bah, évidemment, Zack Snyder a commencé à raconter un petit peu ce qu'il avait en tête pour son Justice League partie 2 quand c'était encore d'actualité et c'était une histoire qui avait bien plus d'ampleur. Enfin, oui. Une histoire de Justice League comme tu peux t'y attendre, un truc qui réunit tous les héros de DC, bah ouais, forcément ça va être un gros morceau avec une histoire super ambitieuse derrière. Et là, moi je me rappelle que les premières fois, genre les trucs de Motherbox, j'avais rien bité. Je comprenais pas si c'était juste des petites MacGuffin comme ça qui allaient amener un méchant encore plus méchant que Steppenwolf. Enfin, il y avait les trucs de Darkseid, il y avait le cauchemar de Superman méchant et vraiment je me disais je n'ai rien pigé à l'histoire.
Ouais, puis il présentait Cyborg dans le film qui est inintéressant dans le film alors que c'est un nouveau personnage qui est censé être assez central par rapport au Motherbox et à l'intrigue du film, et c'était ouais, c'est un carnage quoi, mais vraiment un truc vidé de tout sens quoi, c'est le vide.
Ouais, ouais, t'as raison en disant que The Flash, tu vois, c'est un monstre Frankenstein aussi, mais c'est un monstre qui est vraiment monstrueux, ouais. Alors, qui est un peu rigolo à regarder parce qu'il est monstrueux, alors que le Justice League, c'est le monstre de High Frankenstein, c'est le film de merde. Il est c'est un monstre Frankenstein, mais hyper blend. Il y a rien à dire dessus, il est juste laid et c'est tout.
Et je pense que c'est rare les blockbusters où même le public qui s'en fout des coulisses ne perçoit pas qu'il y a un souci. C'est qu'en fait, ça ne remplit tellement pas son office que c'est pour ça que le film n'a même pas marché. Parce que même si tu n'as pas suivi l'histoire, tu peux pas aller le conseiller en disant « mais il y a un peu de spectacle, il y a un peu de divertissement, il y a un peu de plaisir, il y a juste rien ». Et encore, on n'a pas vraiment abordé le fameux Snyder Cut, un moment majeur de cet univers, mais aussi de l'histoire d'écran large en fait. Hein, c'est un peu comme Jésus-Christ, le Snyder Cut dans l'histoire d'écran large. Il y a un avant et un après. C'est une sorte de repère. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez replacer votre arrivée chez écran large par rapport à ça, non, Déborah?
Moi, c'était pendant. Le Snyder Cut était un mythe quand je suis arrivée, parce que je me rappelle que quand je suis arrivée, une des questions pour mes premiers jours, c'était « t'es au courant de tout le bordel sur Justice League et tout ?» Je t'avais dit très vite fait, tu m'avais dit « ok, va falloir que tu te mettes à jour et tout ». Et ouais, c'était encore un peu un mythe. J'étais plus sur le higher cut, moi, genre sur David Ayer qui justement pleure sur les réseaux sociaux et tout.
Et toi, Mathieu ?
Ouais, bah, je suis arrivé pas très loin, donc moi aussi, c'était un mythe, mais... Je tire une certaine fierté d'être celui qui, quand la nouvelle a été annoncée qu'il allait faire Snyder Cut, et franchement, on n'y croyait pas quand même.
Alors, franchement, c'est dégueulasse.
D'être celui à 20h qui a fait « Allez, je sors mon PC portable, je craque mes ongles, je fais la news. »
J'avais trouvé ça dégueulasse parce que je m'étais farci je sais pas combien de news justement sur tous les détails
aussi,
du Snyder Cut. Je te jure que j'en ai fait beaucoup, 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 surtout avec les news du matin et tout. Et qu'au final, le jour de l'annonce, c'est pas moi qui fais la news.
Ah là là, c'est le talent hein, de Jaborska. Il s'est dit le soir, allez, je vais tous les niquer, c'est moi qui fais
l'opportunisme.
Oui, c'est opportunisme, talent, c'est pareil. On parle de Warner. Donc
c'est vrai qu'à l'époque, on n'y croyait pas trop. Et quand il l'a annoncé, on s'est dit, oh putain, donc on s'embarque.
On a tous pensé au après.
On n'a pas remis une pièce dans la machine, on a remis un lingot d'or là.
C'est vraiment genre, point positif, ça va enfin se terminer un jour, point négatif, on en a encore pour 2 ans au moins quoi.
Après, le bon côté, c'est qu'il y a des packages, tu vois, 2023, c'est comme si c'était un seul film en fait, hein. C'est pas 4, hein, c'est juste 2023. Et en parlant de Snyder Cut et donc de Miracle, je sais que ça commence à être un running gag, mais j'y crois toujours à ce projet de podcast qu'on veut lancer un jour. Et ne rigolez pas, je pense qu'on va y arriver un jour, peut-être en 2024. Et je rêve un jour de pouvoir dire aux gens de nous mettre de bonnes notes sur les applications d'écoute, de nous suivre, de nous partager et de nous aimer autant que Twitter a aimé le Snyder Cut.
Ah ça.
Mom does deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.